session de philosophie par le père Marc Dominique Philippe à Saint-Jean-d'Arc le 7 juillet 93.
Je réponds à deux questions posées. Première, on se demande qu'est-ce qu'on peut dire quand Aristote dit que ça procure de la joie à Dieu. Dieu est toujours joyeux, c'est sûr. Il est joyeux éternellement. Et donc, nous pouvons dire que telle ou telle attitude, je ne dis pas ajoutons Dieu de la joie, mais la joie de Dieu, elle est d'abord parce qu'il est Dieu, c'est sa contemplation, c'est sa vie. Mais il est joyeux aussi de nous voir, de tourner vers lui. Évidemment, dès que je parle de Dieu, je ne peux pas comprendre comment cette infinie de joie, cette joie infinie, cette joie éternelle, elle n'augmente pas, elle ne peut pas augmenter, mais elle est, et elle est par rapport au mystère même de Dieu et par rapport au mystère de la créature. C'est ce que je peux dire en toute vérité, que en recherchant la vérité, je suis pour Dieu objet de joie. Je sais que je n'augmente rien à Dieu. C'est ce qu'on appelle en théologie la gloire immanente et la gloire d'extension. La gloire immanente de Dieu, qui est la gloire personnelle, ne peut pas être augmentée. Il peut y avoir comme une gloire d'extension. Il peut y avoir une joie d'extension. Seconde question, c'est par rapport à la structure des voies de saint Thomas. Je ne vais pas trop insister là-dessus, mais c'est quand même très intéressant. Ça revient du reste à un sujet que je voulais aborder. Parce que je crois que la structure des voies de saint Thomas, nous les retrouverons, et j'ai envie de les prendre plutôt au terme. Mais j'ai simplement soulevé le problème maintenant. C'est que ce qui est sûr, c'est que je ne peux remonter à Dieu qu'en me servant de la causalité. Autrement dit, vous n'avez qu'à suivre ce raisonnement, et je crois que c'est nécessaire de le faire si on veut comprendre comment notre intelligence peut remonter à Dieu. Ceci en raison même des critiques de Kant. Je dois donc, d'une part, montrer il n'y a aucune impossibilité philosophique, aucune, d'affirmer que mon intelligence peut atteindre l'existence de Dieu si Dieu existe. Aucune impossibilité. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas limiter les découvertes de mon intelligence. Mon intelligence s'actue à chaque découverte qu'elle fait. Et c'est pour ça que le progrès de l'intelligence est infini. Je peux progresser tout le temps. Et je vous affirme qu'au plan philosophique, on monde s'en aperçoit. On découvre toujours certains aspects au plan philosophique qu'on n'avait pas découvert avant. Donc il y a un progrès incessant au plan philosophique. Des choses qu'on n'avait pas vues avec suffisamment de netteté, suffisamment de profondeur, on les voit de façon beaucoup plus profonde après, progressivement. J'enseigne la philosophie depuis 1939. 38. Vous voyez, ça fait quand même déjà un petit bout de temps. De sorte que j'aime te dire que je suis le plus vieux philosophe enseignant. Je crois. C'est Saint-Père du reste qui m'a dit. Il n'y a pas d'âge limite pour l'enseignement de la philosophie. Et on fait toujours des progrès. Certaines choses que je vois, que j'ai pu dire dans les premières années d'enseignement, que je ne répéterai pas maintenant. Au début, on est imparfait. C'est-à-dire qu'il y a des confusions. Et puis progressivement, les choses se précisent. Et on découvre progressivement tout. C'est pour ça que la philosophie reste toujours quelque chose qui vous éveille. On ne se répète jamais. C'est l'avantage du reste, de tout garder dans son intelligence et de ne pas répéter des papiers. C'est de redécouvrir tout le temps. Alors, il y a une question très importante, puisque les agnostiques disent impossible de découvrir l'essence de Dieu. Il faut répondre aux agnostiques. Est-ce que c'est vraiment impossible de découvrir l'essence de Dieu? Non. Si Dieu existe, et si Dieu est le créateur, il y a donc un lien entre toutes les réalités que je vois et moi-même avec Dieu. Il y a un pont aérien. Je posais la question de cette manière-là à Fribourg, aux étudiants. Je leur disais, c'est intéressant de se poser la question, quelle est la signature de Dieu comme créateur? À Fribourg, il y a des retables très beaux d'un peintre qu'on ignore, mais il signait toujours en mettant un petit œillet. Donc c'est le peintre à l'œillet. Le peintre à l'œillet. On ignore son nom et on voit sa signature. Alors quelle est la signature de Dieu sur les créatures? Vous n'êtes jamais posé la question. Si nous sommes créés par Dieu, il doit y avoir quand même une signature de Dieu. Une marque de Dieu. Oui, il n'y en a pas. Là où Dieu n'a pas créé directement. Or, si Dieu existe, il est le créateur. Il est le créateur de tout ce qui est. De tout ce qui existe. Il est le créateur de mon âme spirituelle. Alors, quelle est sa signature? Posez-vous la question. C'est très intéressant. La signature de Dieu, ça ne peut pas être, vous comprenez, telle ou telle réalité. Ça ne peut pas être l'éléphant. Il n'y aurait que les éléphants qui sont créés par Dieu. Ça ne peut pas être l'homme, parce qu'il n'y aurait que l'homme qui est créé par Dieu. Dieu a créé l'univers, le ciel et la terre. C'est lui le créateur et le créateur de tout. Alors qu'est-ce qu'il y a de commun à tout? C'est tout. Tout ce qui existe croise l'avenir très intéressant. C'est mon exister. En latin, mon essai. Ça ne peut pas être ma nature. Donc ça ne peut pas être l'homme. L'homme en tant qu'il existe est créé par Dieu.
Ah oui.
En tant qu'il existe est créé par Dieu. Mais ce n'est pas ce qui est la signature du Créateur. Tout le reste qui n'est pas homme ne serait pas créé par Dieu. Posez-vous cette question, c'est pas si grave que ça d'y répondre. Ben, c'est l'exister. L'exister est la signature, le tampon du Créateur. C'est sorti de l'usine. Il y a la marque. C'est l'exister. Tout ce qui existe est créé par Dieu. Parce que tout ce qui existe, existe d'une façon limitée. Il ne s'est pas donné l'existence. Vous n'êtes pas donné l'existence. Ça veut dire que c'est mes parents qui ont donné l'existence. Oui, pour la vache. Mais pour vous. Ah. Est-ce que Dieu a joué un petit rôle dans votre existence, pour votre existence ? Est-ce qu'il n'y a pas l'âme, au plan purement philosophique, hein, la foi ultimée au point de vue philosophique, l'âme humaine est directement créée par Dieu, dans un corps. Et le corps, il vient des parents. Il y a tout l'atavisme. Tandis que l'âme, pas d'atavisme. Ça vient directement de Dieu. Et c'est par l'âme que j'existe. Mon existence vient de l'âme. Mais l'âme existe en tant qu'elle est créée par Dieu. Et ce n'est pas l'âme qui est ce qui caractérise l'acte créateur de Dieu. Puisque les autres réalités qui existent, qui ne sont pas des âmes, relèvent aussi de Dieu. Peut-être pas de la même façon, c'est vrai. Par moyen d'autre chose. Mais en tant que mon âme est source d'exister, en tant que mon âme fait que mon corps existe, l'âme est créée par Dieu. Donc, la seule manière de remonter jusqu'à Dieu, c'est de regarder l'exister. Ça, je peux le dire. Je ne peux pas remonter jusqu'à Dieu par mes idées. Pourquoi ? Parce que mes idées, elles viennent de moi. Donc je ne peux pas remonter directement à Dieu. Dire, tu existes parce que je suis intelligent. Mais non. Tu existes parce que j'existe. Et parce que tout ce qui est autour de moi existe. Et ça, c'est déjà pas commode à bien comprendre. Et pourtant, on doit le comprendre, on peut le comprendre. On peut comprendre que tout ce qui existe provient de Dieu. Si Dieu existe, je pose la question, si Dieu existe. Si Dieu existe, il est l'être premier. Il ne peut pas être autrement. Il est l'être créateur, selon toutes les traditions religieuses. Dieu est le créateur. Alors, il s'agit de voir le lien entre l'exister qui est en moi, dans le « je suis », c'est-à-dire « j'existe », et puis Dieu. Si Dieu existe. Voilà. entre cet être premier et moi, il y a une dépendance. Parce que lui est premier et je suis second. Et je suis nécessairement second. Parce qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui existe aussi. Alors, je ne peux pas dire que je suis l'être absolu. Puisque l'être qui est à côté de moi, il ne dépend pas de moi. Je n'ai jamais vu cette tête-là. Puis même si je l'ai déjà vu, c'est pas à cause de moi qu'il existe. C'est bien évident. Donc je ne peux pas être l'être premier. Me dire l'être premier, ça ne va pas du tout. C'est à côté de moi, il y a quelqu'un qui peut se dire aussi l'être premier. Et j'ai aucune chance nouvelle de le dire. Donc, j'existe, mais je suis limité dans mon exister. Donc, je suis dépendant. Je suis relatif à un être premier. Et quel est ce lien? Ah, c'est le lien qui peut être que le lien entre l'être premier et l'être second, c'est un lien de participation. L'être premier, il est absolu, indépendant de tout, et moi je suis dépendant. Lien de dépendance. Ce lien de dépendance, comment puis-je le découvrir? Parce que mon exister, j'ai une connaissance assez difficile à préciser mon exister. Et mon exister limité. C'est pas commode de voir les limites de mon exister. C'est que je ne suis pas l'exister total et à côté de moi il y a quelqu'un qui me rappelle constamment que je suis limité dans mon exister et que je ne suis pas absolu. C'est pour ça que Sartre dit hein, que l'autre c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que l'autre me rappelle que je suis limité. Oui. C'est l'inverse de la charité fraternelle. Métaphysiquement, l'autre me rappelle tout le temps ma limite. Je ne suis pas premier. J'étais seul au monde. Hein, seul. Il faut peut-être me dire que je suis l'absolu. Personne ne me limite. Mais je suis dans le monde. Ah, alors ce serait entre le monde et moi. Et si le monde était avant moi, donc il existe avant moi, donc je ne suis pas. Être en premier. C'est impossible. Quelle est cette dépendance entre l'être premier? Ça peut être une dépendance de causalité. Tout ce qui participe dépend d'un autre et causé par un autre. Donc mon essai est causé par l'être premier. Si l'être premier existe, je ne peux donc le découvrir que par la causalité. Et j'insiste, or, en philosophie, on découvre qu'il y a quatre causes, même une cinquième cause, et que toutes les causes s'organisent les unes par rapport aux autres. Alors, il y a la cause selon la matière. La cause selon la forme, il y a la cause selon l'efficience, il y a la cause selon la finalité, et il y a la cause exemplaire. Il y a trois causes extrinsèques. Philosophique, connaître la diversité des causes. Et comment on connaît les causes? N'oubliez jamais, c'est d'abord et en premier lieu par le travail. Oui, vous prenez des notes. Vous êtes cause du papier. pied ou une peau, si vous avez encore quelque chose de très particulier. Il y a des gens qui, pour les examens, écrivent tout sur leur peau. Saint Thomas donnait cinq voies. Cherchez, il n'y a pas d'autre.
Où est ce lien aux intérieurs? C'est curieux, ça. Entre l'être que je suis et Dieu, si Dieu existe, je suis dans une perspective critique de réflexion. Si Dieu existe, c'est un lien de causalité finale. Ça ne peut pas être autrement. Parce que c'est un lien au niveau de l'exister. Tout ça va se confirmer après, hein. Mais je réfléchis un tout petit peu au point du critique. Et je vois donc qu'il n'y a que 5 manières de m'élever jusqu'à Dieu. Par ces 5 modalités de causalité. Et si je suis attentif aux 5 voies de saint Thomas, et c'est ça qui m'intéresse, je vois que c'est bien ces 5 finalités qui sont présentes. C'est la cause finale présente avec la cause matérielle. C'est la cause finale présente avec la cause formelle. C'est la cause finale présente avec la cause exemplaire. C'est la cause finale présente avec la cause efficiente. Ah, vous allez me dire, numérotez, hein, c'est facile à numéroter. Je vais vous les numéroter maintenant. Causalité finale à l'état pur, la quinta via 5. Causalité finale avec la cause exemplaire, la quarta via. Causalité finale avec la cause efficiente, c'est la seconda. Causalité finale avec la forme, la tertia. Causalité finale avec la matière, prima. Ça, voilà le schème métaphysique de saint Thomas, que je découvre au niveau critique. Toute critique présuppose une métaphysique. Et donc les 5 voies de saint Thomas, qui sont au niveau critique, impliquent un regard métaphysique. Et ce regard métaphysique, c'est le lien avec les cinq manières de voir le lien de dépendance à l'égard de Dieu. J'ai mis très longtemps avant de comprendre ça. Parce que c'est pas dit. On ne le dit pas. On décrit. Et on ne cherche pas à saisir la structure des 5 voies. Alors vous allez me dire, mais comment avez-vous découvert ça? Bien, c'est très simple. Maintenant, je vais vous dire, une fois qu'on a vu ça, hein, une fois qu'on a vu ça, on a vu que personne ne peut dire a priori. Ceci, c'est contre les agnostiques. Personne ne peut dire a priori. Mon intelligence humaine ne peut pas découvrir l'existence de Dieu. Quelqu'un qui dit ça a priori, vous pouvez le démolir. Dire, vous n'avez pas le droit de dire ça. Parce que vous ne pouviez pas, avant de découvrir les mathématiques, dire que l'intelligence humaine était incapable de découvrir les mathématiques. C'est quand l'intelligence les a découvertes, vous avez dit, ah oui, 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 les mathématiques, ça existe dans l'intelligence humaine. Avant, non. Bon, tant que vous n'avez pas découvert l'existence de Dieu, vous ne pouvez pas dire que votre intelligence est incapable de le découvrir. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez dire, je ne sais pas, moi j'aime arriver. Oh, c'est très bien, oh, c'est très bien. C'est tout à fait légitime, pas étonnant. Pour Aristote, il faut aller au moins 45 ans pour arriver à découvrir Dieu. Comme on est un peu plus évolué qu'Aristote, je peux dire qu'on fait plus vite, nous. Donc, même si on n'a que 15 ans, on peut. Petit gosse. À 4 ans, sa mère, c'est sa mère qui m'a raconté ça. Et je crois que c'est authentique. Petit gosse, à 4 ans, sa mère lui sert la soupe. Et puis la mère voit qu'il réfléchit. Puis il mange pas sa soupe. Alors la mère dit, mais qu'est-ce que tu penses? À quoi? Maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Alors sa mère lui répond du tac au tac, écoute, mange ta soupe avant de découvrir l'éternité, parce qu'elle serait froide. Alors évidemment. Et puis elle s'en Elle revient au bout de 5 minutes. Elle voit le gosse qui prend sa soupe. Alors là, elle a commis une faute. Mais heureuse faute. Elle a commis une faute. Elle a dit, alors tu as découvert. Fallait pas dire ça. Mais elle le dit. Et l'enfant dit oui. Alors qu'est-ce que c'est que l'éternité? Il prend son rond. Maman, l'éternité, c'est ça. Ah, c'est très joli, vous voyez. Ce gosse redécouvrait le symbolisme de toutes les traditions religieuses et que les pensées philosophiques premières ont donné le cercle. Pourquoi? Parce que le commencement et la fin se rejoignent. L'éternité, c'est le point de départ et le terme qui se rejoignent simultanément. Il n'y a pas de succession. La succession, c'est que le point de départ et le terme ne se rejoignent jamais. Paris et Lyon, Paris et Genève ne se rejoignent pas parce qu'ils sont dans le temps et dans un lieu. Tandis que si Paris était l'éternité, ce que tous les Parisiens désirent, si Paris était l'éternité, eh bien, il n'y aurait pas de distance entre Paris. Mais Lyon serait absorbé par Paris, complètement, c'est évident, entièrement, tout entier relatif. L'éternité, point de départ et terme. Ça te va, dit imaginativement, l'éternité, c'est un instant substantiel. C'est l'imagination qui se représente, un instant substantiel. Un instant, c'est par l'instant qu'on choisit l'éternité. Mais l'instant, c'est dès que vous le dites, c'est plus l'instant. C'est terrible. Hein? L'instant, ça ne dure qu'un instant. Mais si l'instant est l'instant premier, l'instant qui est l'instant substantiel, c'est l'éternité. Oui, imaginativement. Alors, il faut comprendre que si mon intelligence est capable de découvrir l'existence de Dieu, c'est par l'être en acte, l'exister, grâce à la causalité finale. Voilà. Et là, personne ne peut m'empêcher de faire cette recherche. Personne. Et celui qui l'a fait me dit, oui, j'ai fait. Je suis un cosmonaute de l'intelligence. Je suis monté. Ça y est. Et j'ai découvert. Ah, vous voyez, ça vaut la peine de faire ça. Alors, nous allons maintenant essayer de comprendre comment pouvons-nous faire cette découverte. Je vois que ce n'est pas impossible. Notez toutes vos objections. Je les détruis. Vous ne pouvez pas dire a priori, c'est impossible que l'intelligence humaine remonte jusqu'à Dieu. Alors, si je suis croyant, je dis l'Église me dit que je peux. Mais ça c'est pour le croyant. Et si je suis intelligent, je montre que ce que l'Église dit là-dessus n'est pas bête. C'est la vérité. Mon intelligence humaine peut, par elle-même, après un certain entraînement. Hein. Tout homme peut être un cosmonaute grâce à un entraînement. Tout homme a dû être fou. Grâce à un certain entraînement, grâce à une technique qui permet ça. Mais avant d'avoir été dans la Lune, on ne pouvait pas le dire. Maintenant, on peut le dire. Maintenant, je peux dire que l'homme de la fin du XXe siècle, grâce aux cosmonautes, a une vision de la Terre, de la Lune. C'est extraordinaire. Hein? Cette petite Terre, elle est bleue. Je ne pouvais pas dire ça avant. Je ne croyais pas que la mer jouait un rôle si important dans ma vision sur la Terre. Elle est bleue. C'est extraordinaire. Ça ne donne pas une connaissance beaucoup plus approfondie de l'homme. Non. Ça n'a pas bougé du tout. Ça n'a pas bougé. La connaissance de l'homme est restée exactement la même et l'ignorance de l'homme est restée la même. Mais je ne pouvais pas le dire avant, maintenant je peux le dire grâce à la technique. Quand il s'agit de Dieu, mon intelligence à l'état natif. Parce que mon intelligence, elle peut chercher la vérité. Et elle peut chercher cette vérité première, fondamentale, découvrir que Dieu existe. Alors, je le dis quand je l'ai découvert, mais je peux le dire avant à titre d'hypothèse. Si Dieu existe, il n'y a aucun inconvénient à mon intelligence de découvrir. Parce que mon intelligence est faite pour la réalité, pour connaître cette réalité. Et pour remonter le plus loin possible dans cette réalité, elle ne peut découvrir que par le cordon ombilical qui existe entre le Créateur et la créature, l'exister, participer, dépendant. Et ce cordon ombilical, c'est une causalité finale. Donc retenez ces deux choses. Maintenant, nous allons voir comment. Je vous ai dit ce matin qu'il fallait reprendre le problème métaphysique dans toute sa force. Ceci est, je pars du jugement d'existence et non pas du je suis. Ça, je crois que vous en êtes convaincu maintenant. J'espère que vous voyez qu'en partant du ceci est, je découvrirai je suis, tandis qu'en partant du je suis, je ne découvrirai pas ceci est. Il n'y a pas un aller-retour, vous voyez, c'est très curieux ça du reste. Je peux aller du ceci est à je suis, mais je ne peux pas aller du je suis à ceci est. Ceci est pour découvrir le je suis, et je ne peux pas partir du je suis pour découvrir ceci. Pourquoi ? Parce que, en partant du je suis, je n'arrive pas à découvrir l'être pour lui-même. Je découvre l'être en moi, dans mon je. C'est mon je qui cache l'être. Mon je, mon moi, c'est tellement monstrueux, mais tellement beau, moi, que quand je regarde que j'existe en réalité, je me regarde dans une glace, dans un miroir. J'arrive pas à découvrir l'être en partant de moi, directement. Parce que mon exister et mon moi, c'est tellement bien, j'arrive pas. Tandis que si je pars de ceci est, ah, c'est très pauvre, alors l'être apparaît dans toute sa force. Et de l'être, je découvre je suis. Tandis que du je suis, je ne découvre pas l'être. Ou très difficilement, et même je crois impossible. Alors, je pars du ceci est. Nous allons nous préparer en cosmonaute de la découverte de l'existence de Dieu. Il faut découvrir l'existence de Dieu, ça vaut la peine. Alors nous allons faire les haltes nécessaires pour bien comprendre. Et puis ensuite, vous arriverez. Alors je vais assez vite. Ça dure du temps normalement, c'est quoi ça ? Je parle donc de ceci est. J'arrive à ce que je disais ce matin, à poser l'interrogation, qu'est-ce l'être ? Vous voyez, le verbe être, c'est un verbe au présent. Et je pose la question à l'infinitif. Qu'est-ce que ça fait ça ? C'est que je sépare l'être de ceci. Et je peux le faire, puisque ceci, c'est n'importe quoi. Alors, ce qui m'intéresse, c'est l'être. Et donc, je peux très bien me poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Quand mon intelligence fait ça, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle part du concret. Ceci, c'est le concret. Pour poser l'interrogation sur l'abstrait. Ce passage de ceci est quelque chose de concret. Ceci est la table. Moi, vous, ceci est. C'est quelque chose de concret. Et quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je suis en face de quelque chose d'abstrait. C'est analogue. Analogue à blanc, blancheur. Et vous touchez là tout de suite quelque chose de très curieux. Mon intelligence aime s'abstraire pour mieux connaître. Mais c'est pas une abstraction simplement dans les mots, c'est par rapport à la réalité. Quand je pose qu'est-ce que c'est que l'être, je veux ne pas regarder tel être, le ceci, tel être. Je regarde l'être en l'isolant de tel, en l'isolant de Pierre, Jacques, Vache, Table, Minet. C'est pas de tout ça. Et je regarde que l'être. Oui. Je veux saisir ce qu'est l'être. Saisi à partir de la réalité, à partir de moi. Et je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Heidegger, puisque il est tout proche de nous, Heidegger reste à l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et pour lui, c'est le sommet de la métaphysique. Pourquoi ? Parce que l'être se sépare du ceci qui contamine l'être. Or, l'être abstrait n'est que dans l'intelligence. Donc, quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? J'ai néantisé tous les ceci. Je les rejetais et je n'en regarde que l'être. Et je reste dans l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et c'est pour ça que pour lui, ce qu'il y a de plus grand, c'est l'interrogation. Il dit, là, Heidegger fait une faute. Pourquoi ? Parce que passer du concret à l'abstrait, c'est tout simplement une analyse. C'est une analyse. Je veux connaître le blanc dans toute sa blancheur. Et non pas le blanc du mur. Et non pas le blanc du visage, et non pas le blanc de la neige. Je veux savoir qu'est-ce que c'est que le blanc. Le blanc dans toute sa pureté n'existe pas, il n'existe que dans mon intelligence. Ou bien alors l'affiche, la réclame, le persil, blanc. Ça n'existe que là, ça n'existe pas autrement. Comme la statue de la liberté. La liberté n'existe comme statue que quand vous allez à New York. Comment ça n'existe pas ? La liberté n'existe pas. En soi, il y a des actes libres. Mais la liberté, vous ne l'avez jamais vue. Moi, je n'ai jamais vu du reste. Et vous non plus. Je vois des actes libres. La blancheur, vous ne l'avez jamais touchée. Vous ne l'avez jamais vue. Mais vous pouvez penser la blancheur, ce par quoi le blanc est blanc. Vous voyez l'abstraction qu'on fait. La signification de blanc et de blancheur, elle est la même. La signification, eh bien, la signification de être et de est, est la même. Et c'est là que Heidegger fait une faute. C'est élémentaire. Et des gens très intelligents peuvent faire des fautes élémentaires. La signification, tout est là, vous voyez, c'est quand même très curieux. mon intelligence est capable d'abstraire, ce n'est pas un mensonge. Je sais que j'abstrais. Et la signification de être et de est la même. Et parce que la signification de être abstrait et de est la même, je peux donc revenir à l'expérience. Sous le point de vue de l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Comment voulez-vous savoir ce que c'est que l'être? Et pour venir aux réalités, l'être de la vache, l'être de l'homme, l'être de tous les hommes, qu'est-ce que c'est que l'être? Et donc, c'est à partir de l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, que j'entre en philosophie première. Et je découvre successivement, alors c'est là, il faut être très attentif, parce que nous n'allons pas faire cette découverte. Je découvre successivement, en interrogeant qu'est-ce que c'est que l'être, je découvre ce qui est premier dans l'être, du point de vue de la cause formelle. Autrement dit, quelle est la détermination première de l'être? Je découvre ce qu'on appelle la substance. Ce qu'Aristote appelle ousia. Ce qui est premier dans l'être. Et ceci se fait grâce à une induction. Là, j'entre dans la première analyse métaphysique. Qu'est-ce que c'est que la substance? C'est cette source de toutes les déterminations. Mon âme, c'est ma substance. Mon âme, c'est ma substance. Mais quelle différence y a-t-il entre l'âme et la substance? C'est que l'âme est source de vie. La substance est principe d'être. Donc c'est toute la différence qui existe entre l'être et la vie. Mais pour moi, ma vie, c'est mon être. Et mon être, c'est ma vie. Hein, vous êtes bien d'accord? Pour moi, mon être, c'est ma vie. Et ma vie, c'est mon être. Et donc, pour moi, ma substance, c'est mon âme. Ça nous aide à comprendre ce que c'est que la substance, vous voyez. Qu'est-ce qui est la source de toutes les déterminations en vous? C'est votre âme. C'est ce qui est radical en vous. Et vous pouvez la saisir que de ce point de vue de l'être. Ceci, c'est la première grande interrogation. C'est la première grande découverte qu'on fait au plan métaphysique. La seconde, c'est du point de vue de la finalité. Alors là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Du point de vue métaphysique. C'est que il n'y a pas de cause propre selon la matière au niveau de l'être. Je répète pour que vous compreniez bien. Il n'y a pas au niveau de l'être de cause propre selon la matière. L'être est au-dessus de la matière. Il n'y a que les matérialistes qui disent qu'il y a une cause propre de l'être selon la matière. C'est-à-dire que tout être est matériel. même chose. Il n'y a pas de cause propre selon l'efficience aux efficientes au niveau de l'être. Parce que l'être n'est pas le devenir. Et que la cause efficiente sur le devenir. Tandis qu'il y a une cause selon la fin de ce qui est, une cause propre de la fin de ce qui est. Au fond, c'est pour ça que la métaphysique est si simple, parce qu'il n'y a que deux causalités propres de l'être en tant qu'être. La substance et l'être en acte. Je suis obligé d'aller vite pour dire ça, hein. C'est toute la métaphysique, ça. Et une fois que j'ai cette analyse, je peux dire que la propriété de l'être, c'est l'un. Tout ce qui est en tant qu'il est un. Donc la métaphysique, ça se résume, vous voyez, en trois points. La substance, l'être en acte, l'un. Et enfin, une fois que j'ai fait cette analyse, je reviens sur l'être le plus parfait que je peux expérimenter moi-même. Je suis. Dans la lumière de l'analyse métaphysique de l'être, je découvre que mon être a un caractère tout à fait particulier, qu'il est une personne. Au terme de mon analyse de l'être, je découvre ma personne. Le lien entre l'être et l'esprit. Et je vois bien qu'il n'y a pas deux métaphysiques. Il y a une métaphysique de l'être qui est capable de me conduire à la personne humaine. La métaphysique de l'être me conduit à la métaphysique de l'esprit. Et la métaphysique de l'esprit, c'est ma personne. Je suis un être unique au monde. Vous voyez, ça c'est, ça vous donne beaucoup de joie, ça. Je suis un être unique au monde. Personne ne peut me remplacer. C'est quand même agréable. On est indispensable du côté métaphysique, quoi. Et si on faisait un peu plus de métaphysique, on aurait beaucoup moins d'angoisse. Beaucoup moins. Beaucoup moins. On pourrait avoir cette stabilité de la substance et de l'âme. On pourrait avoir ce sens extraordinaire de dire « Je suis unique au monde. Personne ne me connaît comme je me connais. » Alors quand un psychologue prétend me connaître, « Mais non, vous ne me connaissez pas. J'ai des secrets. » Que vous connaissez pas. Vous me voyez de l'extérieur, mais vous ne voyez pas comment j'agis, ma finalité. Vous voyez la connaissance de la personne. On a fait toute l'année sur la personne. Une heure par semaine. Qu'est-ce que c'est que le je suis? Alors au terme, à poser la question, mon père, c'est pas très chrétien, mais ce qu'il faut complètement s'oublier, et on a parlé tout le temps du je suis. Et c'est sûr, je comprends très bien, mais je parle de je suis pour m'oublier. Parce que celui qui ne sait pas ce qu'il est ne s'oublie jamais. Il faut se connaître pour s'oublier. Celui qui prétend se connaître, qui ne se connaît pas, ne s'oublie jamais. Et là, c'est toujours moi. Vous voyez, le moi psychologique qui revient tout le temps, parce qu'on n'a pas compris qui on était au plan métaphysique. qu'on est une personne unique. On sait qu'il y a en nous quelque chose d'unique. Personne ne peut me remplacer. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Je suis une substance individuelle avec un corps. Je suis un être qui pense et qui est capable de penser. Je suis un être qui est capable d'aimer. Je suis un être qui est capable d'assumer mon corps et toute la diversité de mes opérations au niveau moral, au niveau de l'activité artistique, au niveau communautaire et politique. C'est quand même pas mal. Voilà toutes mes dimensions de ma personne humaine. Alors, je vous laisse en face de ça. Et à partir de là, à partir de la personne humaine, je me pose la question. Est-ce que ma personne humaine est l'être premier ? Et vous pouvez tout de suite répondre, ma personne humaine n'est pas l'être premier, puisque mon voisin et ma voisine sont aussi une personne. Alors, existe-t-il un être premier ? C'est pas moi. C'est pas mon voisin. C'est pas ma voisine. Non, sûrement pas. Ils sont trop limités. Beaucoup trop limités. Et moi-même, humblement, je suis aussi trop limité. Je le dis après les limites des autres. C'est vrai, la voie du métaphysique, je m'affirme, je suis, et je suis un être unique au monde. C'est beau de reconnaître qu'on est un être unique au monde et qu'on ne peut pas me remplacer. Vous savez, on remplace les gens aujourd'hui très souvent comme des... sans regarder la dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine fait comprendre qu'on est irremplaçable. Donc on a toujours quelque chose à faire, puisqu'on est irremplaçable. Le simple fait qu'on existe. Simple fait, on est irremplaçable, on est unique. Alors, si on est unique et irremplaçable, on se pose la question... Est-ce que je dépends d'une réalité autre que moi, totalement autre que moi, et qui est une personne première, qui est un être parfait? Vous voyez, c'est à partir de la personne humaine qu'il faut aujourd'hui se poser la question de l'exister d'un être premier, c'est-à-dire d'une personne première.